Bonjour tout le monde. Peut-être que nous pouvons commencer par nous présenter et donc je vais commencer par te poser la question. Qui es-tu?
Oui, donc Lorelai, j'ai comme Mickaël un background en fashion design et fashion making. Enfin, je suis couturière de formation et on s'est retrouvés tous les deux ensuite au master de recherche CCC et invité aujourd'hui par Marianne Villière pour parler de gestes de poing tendre en rapport avec nos pratiques. Et j'allais continuer à parler à toi. Qui es-tu, Mickaël?
Alors, je suis Michael, voilà, j'ai, comme Lorela a pu l'évoquer, j'ai fait un bout de chemin, enfin, nous avons fait un bout de chemin ensemble en faisant ce bachelor en design de mode à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Par contre, je ne me définirais pas comme faiseur d'objets textiles, mais plutôt comme, voilà, designer d'interaction sociale. Je n'ai pas ce bagage de créateur de vêtements et finalement de technicien comme Lorela.
Okay. Oui, c'est vrai que peut-être se définir aussi, c'est intéressant. On s'est croisé une année en master et moi j'ai fini l'année passée et j'ai développé pendant les 2 ans une pratique artistique plutôt autour de l'écriture et de la présentation performative en installant par exemple des sessions d'écoute et en présentant quelques objets, mais finalement assez peu. Et surtout un travail autour du texte avec pas mal d'auto-édition et des pièces audio. Et je me considérerais aujourd'hui plutôt comme chercheuse, artiste, c'est toujours un peu compliqué sans production pratique, je suppose, et autrice éventuellement. Toujours un peu en mouvance, les définitions.
Je te rejoins, en fait, j'ai voilà, tout d'abord, je t'ai suivi dans le master CCC et j'ai plus ou moins adopté la même démarche, celle de l'écriture. C'est vraiment à partir de cette deuxième année de master que je commence à bricoler, à traficoter et à avoir des petits gestes performatifs de hacking, pour ne pas dire de piratage.
Et je pense aussi qu'on avait tous les deux ce rapport un peu à la surproduction, très fort. Enfin, je sais que le bachelor a été très intense et on produisait sans cesse, sans jamais réfléchir à ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Et je crois aussi que le désir de faire un master de recherche, c'est venu en contradiction à ça. Moi, je sais que la première année, je refusais absolument de produire. Et les gens me disaient, mais c'est trop bien, t'as les savoir-faire, il faut que tu nous fasses des pièces et que tu fasses un défilé à la aide. Mais en fait, j'en avais déjà fait un et j'avais justement envie de m'éloigner de tout ça. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui et maintenant, c'est qu'avec cette envie et peut-être cette désillusion un peu en commun qu'on peut avoir, on a pris des pistes différentes, mais qui correspondent. Peut-être que plus que de pratiques, nous deux, on pourrait parler de recherche, parce que je pense que les pratiques sont assez mouvantes, mais qu'on a un fil conducteur. Enfin, on va commencer avec les métaphores assez vite, hein, mais je pense que dans nos deux parcours, il y a des fils conducteurs qui peuvent se rejoindre et que les pratiques s'articulent autour de cette recherche. J'ai l'impression que dans notre cas, on parle peut-être moins de pratique au sens pratique appliquée artistique, mais d'un fil central qui est la recherche, sur lequel viennent des expérimentations pratiques, mais qui sont d'expérimentation et peut-être qui sont plus variées que... Enfin, par exemple, je sais que je ne suis pas peintre, donc je ne peux pas dire ah, j'ai une pratique de peinture. Je dirais que je suis chercheuse et que j'ai une pratique d'essayer de donner voix et de rendre visibles certaines choses et d'écriture. Mais c'est aussi plus compliqué, du coup, en tout cas pour moi, de me focus sur une œuvre en particulier ou d'en parler, mais plutôt d'un processus.
Totalement oui, je pense que c'est le même cas pour moi. Ouais, ce serait difficile peut-être de parler d'une œuvre en particulier, mais voilà, de ce processus, de ce voyage. Tu parles d'expérimentation parce que je pense qu'on est là, enfin, voilà, on mène notre recherche, et finalement on essaye, on teste, on fait des tests comme on nous a appris à le faire en bachelor. On trébuche, mais on se relève et on continue et on tente différentes choses qui peuvent aider à alimenter, enrichir notre recherche plus que notre pratique.
Je sais que tu as une pratique, alors du coup, en tout cas, une recherche avec un aspect pratique axé autour des symboles et des principes de réparation, qui sont aussi des mots-clés qui me parlent beaucoup, parce que j'ai moi-même travaillé beaucoup sur les travaux d'aiguille et que le principe de réparation était assez essentiel dans le geste même de faire. Et je pense aussi beaucoup à ce que disait Louise Bourgeois, par exemple, autour de l'aiguille qui répare.
En soi aussi, tout prend racine justement dans ce désir de rompre avec cette surproduction qui nous a été imposée pendant le bachelor. Et en soi, la réparation, De biens textiles, enfin de biens vestimentaires et de matières textiles, finalement ce n'est qu'un prétexte pour parler de l'être humain. Mais voilà, la réparation allait de soi, voilà, dans cette envie de plutôt de chérir ce que nous avons déjà et de réparer en fait ce qui pourrait succomber à l'usure en fait au travail du temps. Et oui, pour moi c'est tout un travail de soin, la réparation.
J'aimais bien cette idée que tu parlais de relations humaines, et justement je repensais à cette citation de Louise Bourgeois que j'ai retrouvée, qui dit « The idea is to repair the damages that are inflicted in life, to make something that is fragmented, which is what fear and anxiety do to a person, into something whole again. » Et je crois que dans cette idée, il y a aussi la notion de soin qui est très importante, et de développer des méthodes alternatives pour prendre soin. Translation de la réparation vestimentaire à la réparation aussi humaine et de communauté. Et je crois que c'est quelque chose qui te parle beaucoup aussi.
Ça me parle beaucoup et moi ça me fait directement penser au cercle justement de réparation de vêtements que Lucie Chaptal organise avec son initiative qu'elle nomme We Made Together. Et je vais lire un passage d'une interview qu'elle a pu donner à Sophie Fellay. J'ai commencé cette idée à demander à mes proches de prendre un objet ou un vêtement qui est cassé et à le réparer avec moi autour d'une discussion. Pendant cette discussion, j'aborde un moment traumatique que j'ai vécu avec cette personne, pour avoir leur vision, parce que c'est une manière de s'en libérer, je pense. Avec l'expérience de la réparation, c'est une double expérience. Et ensuite, elle évoque justement la justice restaurative, qui est ce moyen justement de réparer des corps, de réparer justement voilà, des relations, des liens sociaux.
On peut alors c'est un petit aparté, mais il y a des super podcasts qui ont été faits par Charlotte Bien-Aimée pour un podcast à soi sur Arte Radio, avec plusieurs épisodes sur le système de justice et la justice réparative, et surtout dans les relations de genre, mais aussi de classe, qui vaut la peine. Et c'est intéressant en fait ce que tu racontes, parce que moi j'ai été familiarisée à ces cercles. Enfin, dans ma recherche, le point assez central était les cercles mis en place par des femmes généralement, ou des personnes marginalisées dans un certain contexte, pour donner la parole et ouvrir un espace de savoir mineur, mais où la parole et les savoirs pouvaient communiquer, et du coup où il y avait une grande entraide, une grande solidarité. Il faudrait que je retrouve les dates exactes à ces cercles militants dans les années. Je sais que, par exemple, au moment où les premiers textes anti-ségrégation et anti-esclavagisme étaient promulgués, alors anti-esclavagisme, je pense pas, il y avait ces cercles militants qui se rejoignaient, où les savoirs et les livres étaient lus à voix haute pendant que les participantes ou participants tricotaient, souvent des participantes. Et c'était aussi un moyen de tenir politiquement éveillés les gens autour de soi et de pouvoir faire corps là où le corps social était peu ou pas possible dans l'espace public. Donc il y a ce processus de tisser du lien social qui va dans une réparation, même une sorte d'accès à des droits et au savoir. Et je trouve intéressant aussi ce rapport à la parole traumatique, parce qu'on voit beaucoup en fait de cercles de parole se former, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Mais que tout d'un coup, d'y travailler avec les mains, ça apporte aussi une autre gestion des émotions. Ça permet de embody quelque chose, ou peut-être aussi de laisser partir. J'ai une discussion aujourd'hui qui était intéressante, avec quelqu'un qui me disait que quand elle tricotait en écoutant par exemple un podcast sur... J'ai oublié le nom de l'autrice, mais qu'elle écoutait 4 heures de podcast en faisant un bonnet, et que du coup c'était comme si le bonnet était presque encodé, enfin que c'était aussi un moyen d'inscrire une histoire, et par conséquent de la laisser partir. Je sais aussi qu'il y avait cette histoire dans le nord de l'Inde de femmes qui tissaient leur tapis et qui avaient des symboles dessus pour coder ce qui leur était arrivé. Souvent des histoires de violences sexuelles en cas de conflit, et que du coup c'est un travail collectif aussi de mémoire qui se fait, mais de laisser partir, enfin de gérer le trauma ensemble et de pouvoir en parler. Et j'aime bien ce voyage que ça fait, cette pratique de réparation et de lien, pour finalement arriver à des cercles très concrets de parole où tout d'un coup on a une forme peut-être plus actuelle et plus accessible, parce qu'elle ne demande pas un savoir-faire que beaucoup de gens n'ont pas ou plus, mais de garder quand même l'importance de ces moments-là.
Et je sais que tu as également exploré, donc là tu nous parlais aussi de ce qui est possible, ce qui est impossible, les espaces dans lesquels il est possible justement de prendre la parole, de s'exprimer, des lieux communs ou peu communs pour justement le travail de l'aiguille. Et dans ton travail, tu avais également exploré des espaces où les femmes venaient tricoter en signe justement de contestation ou voilà, de résistance.
Oui, alors c'est vrai que pendant la Révolution française, il y avait tous ces débats qui étaient tenus sur la place publique, donc grands débats politiques, et aussi les exécutions. Et c'était un moment où les femmes étaient quand même tenues de tenir la maison, alors on parle forcément aussi de certaines classes, hein, mais qui du coup devaient continuer le travail ménager, comme celui de tricoter, et qui du coup, comme elles voulaient faire partie de la société qui était en train de naître ou de se transformer, tout du moins, allaient tricoter ensemble sur les bancs pour assister aux assemblées et aux exécutions. Et c'était aussi une époque où en fait les citoyennes n'avaient pas le droit de porter des armes. Et du coup, ont été accusés à ce moment-là de porter des armes sur la place publique et d'être tout rassurés de sang. Parce que c'était là avec leurs aiguilles à tricoter qui, tout d'un coup, sortis du foyer, étaient un symbole extrêmement dangereux. Et c'est devenu tellement une sorte d'idée politique que ces femmes s'étaient armées et qu'elles étaient dangereuses et qu'elles n'étaient plus à leur place, que les mouvements citoyennes qui se sont organisés pour pouvoir porter des armes et pour pouvoir, en fait, avoir les mêmes droits, les mêmes responsabilités que les hommes au sein de la cité, se sont fait appeler les tricoteuses. Et c'est aussi intéressant, je trouve, cette tension entre réappropriation et une forme de relégation quand même à un rôle et de réappropriation de ce rôle-là. Et c'est un aller-retour qui est assez mouvant dans les travaux d'aiguille et qui était très compliqué à gérer aussi en faisant une recherche dessus. Ne serait-ce que parce que je voulais pas non plus valoriser des esthétiques et des pratiques qui, en fait, restent très oppressives dans leur application au niveau global, ou même de notre côté. Mais c'est compliqué de valoriser des savoir-faire féminins en sachant que la majorité des ouvrières textiles sont des femmes racisées et pauvres, et qu'à côté de ça, on a des comptes Etsy qui s'ouvrent avec des broderies militantes, et de savoir aussi quel rôle nous on joue là-dedans, en travaillant ces matériaux et en les mettant aujourd'hui en scène dans le monde de l'art. Et je crois que c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est que moi je me suis beaucoup intéressée à l'aspect savoir assujetti, un peu défini par Foucault, espèce de résistance politique de la voix d'une certaine manière, de remembering, et que toi, tu as enfin, un aspect très action concrète et actuelle. Moi, c'était beaucoup d'essayer de faire un travail d'archivage aussi, de récits, d'histoires entendues, de pouvoir les faire correspondre, et que toi, tu as quelque chose de très d'action immédiate, enfin pas immédiate parce que c'est aussi un temps long forcément dans la pratique, mais d'action du maintenant. Et je pense qu'en ça, nos recherches se complètent assez bien aussi.
Oui, je me dis assez souvent que tu as travaillé au CCC sur le passé et tu faisais vraiment un travail de mémoire dans ton travail de mémoire. Et moi, je prends en quelque sorte ce bloc du présent, voire de l'avenir, également en me battant pour une certaine justice donc climatique et sociale. Mais en tout cas, avec cet angle d'approche de préoccupation pour les générations à venir. Mais en soi, tu vois, tu parlais de légal et d'illégal, finalement aussi, pour une femme de porter des armes ou non. C'est quelque chose que j'essaie de questionner aujourd'hui dans ma recherche, en allant notamment, voilà, par des petits gestes concrets et très, voilà, très ancrés dans la réalité, d'aujourd'hui, d'aller, réparer des vêtements qui n'ont pas encore pu vraiment vivre, qui n'ont pas eu leur première vie avant même de penser à une seconde, à troisième, énième vie, qu'ils ont déjà été endommagés, qu'ils ont été blessés, sur lesquels on a greffé un passé fictif, donc des vêtements troués qu'on pourrait trouver en magasin, et je viens leur apporter ce soin qu'ils n'ont pas encore connu, ou en tout cas dont ils auraient peut-être forcément, on pourrait imaginer, besoin, en les réparant en boutique, en cabine d'essayage directement, en bouchant les trous, enfin en tout cas en cicatrisant. L'idée, c'est de cicatriser plus que de boucher, et de les restituer au monde et de les, en quelque sorte, voilà, les préparer au monde qui les attend à l'extérieur de toute boutique où je les trouve.
C'est intéressant. Alors aussi en aparté pour les gens qui ne verront pas en train d'enregistrer, j'ai proposé à Mickaël de me rejoindre dans un bureau de l'Institut de recherche en art et design. J'occupe un poste en ce moment, puis on est dans une archive d'objets en denim, donc quelques vêtements. Et donc tu parles vraiment du distress denim, c'est-à-dire ce procédé industriel d'altération du tissu. On ne parle pas de vêtements troués involontairement quand
Non,
tu
non,
parles
alors
de
là je
magasin.
parle vraiment de vêtements qu'on a troués volontairement pour les restituer, enfin, au monde de cette façon-ci. Il faut savoir aussi, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le processus de production de ces jeans troués, par exemple, ou tout autre vêtement troué, il n'est pas encore assez rentable pour l'industrie de produire le vêtement directement avec ces espaces, enfin, en tout cas, avec ces trous, avec cette matière manquante. Non, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que le vêtement est réalisé comme il serait réalisé sans trous, et ensuite les trous lui sont infligés. Voilà, parce que dans un certain inconscient collectif, j'ai déjà été confronté à cette idée reçue que le jean serait tissé avec le trou inclus au genou, par exemple.
C'est vrai, mais il me semble qu'on avait d'ailleurs, il y a un film documentaire qui avait été fait sur les personnes qui sablent les jeans pour les altérer.
Totalement. En fait, voilà ce que je mets également en lumière dans ma recherche, c'est le coût, en fait, le coût derrière l'immatérialité, derrière ce trou. Combien coûte un trou finalement? Combien coûte quel est le coût humain derrière ce trou? Parce que bien sûr, il y a peut-être un certain coût esthétique. On peut être d'accord ou ne pas d'accord avec l'image que ça renvoie, mais par contre, il ne faut pas négliger le coût humain derrière le sablage et tout le procédé d'altération du jean, où les personnes développent des maladies pulmonaires, la silicose, si je me trompe pas, qui est liée justement à cette inhalation, enfin, inhalation par inhalation, les personnes développent ces maladies et justement et ce sont en fait de la poussière de film, de coton, si c'est le coton qui est utilisé dans le processus, enfin, mélangé au sable.
Et je crois que le oui, c'est surtout ça. C'est marrant d'ailleurs parce que quand je pense à la production de jeans, je pense surtout au coût écologique et humain, que quelque part le coût de design, pour moi, il a juste disparu de l'équation. C'est que chaque fois que je vois des jeans déchirés aussi, je crois que je pense à la personne qui a dû les sabler plutôt qu'à la personne qui a designé la paire de jeans. C'est marrant comme en fait la violence de ça a pris le dessus sur tout le reste.
C'est dingue.